Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
C'est assez rare pour être signalé, notre invité s'est d'abord fait un prénom avant de se faire un nom. Chose rare encore, elle a eu la notoriété avant même de l'avoir désirée. Elle a à peine eu le temps d'explorer ses passions que les autres, les adultes, ont vu en elle du talent et ont décidé, pour elle, d'en faire une artiste. Oui, notre invitée a été une enfant et une ado star. Et son visage, comme ses tubes, sont gravés dans nos mémoires. Ce passé et cette petite fille qu'elle était, elle y porte aujourd'hui un regard doux et bienveillant, même si ça l'a longtemps enfermée. « J'ai eu parfois l'impression d'être figée dans le passé », dit-elle. Pas simple de grandir, de devenir une femme et d'évoluer librement quand les autres veulent égoïstement vous garder enfant, vous emprisonner dans une image d'adolescente douce et fragile. Elle a pourtant largement déployé tout son art depuis. Les albums en tant que chanteuse et auteur, les fictions en tant que comédienne chaque jour dans Ici tout commence sur TF1, et puis les expos aussi en tant que photographe. A-t-elle finalement réussi à faire oublier l'ado? Est-ce qu'aujourd'hui, on l'arrête dans la rue pour lui parler de Francis Huster ou de Frédéric Diefenthal plutôt que de Glenn Medeiros? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard, et bienvenue à vous, Elsa Longini.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, au Dôme Tournon. Quand on vous arrête dans la rue, est-ce qu'aujourd'hui on vous parle de Clotilde Armand, votre personnage de chef cuistot dans Ici tout commence, ou encore d'Elsa la chanteuse?
Les deux.
Les deux, beaucoup.
Les deux, ouais. Alors, il y a une nouvelle génération qui ne me connaît pas en tant que chanteuse. Donc, eux, c'est la comédienne. Et puis d'autres qui me suivent depuis toujours, et tout se mélange un petit peu, donc c'est assez...
Vous avez l'impression que vous êtes définitivement fait un nom de famille en plus de ce prénom ?
Je ne sais pas, c'est difficile à dire pour moi, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment le recul par rapport à ça, je ne sais pas, j'ai l'impression que oui, qu'il y a plus de gens qui me connaissent maintenant avec mon nom et mon prénom qu'avant, mais j'ai pas, je ne me rends pas bien compte de ça, en fait.
Ça a été un combat difficile, quand même, de vous affirmer en tant qu'artiste complète.
Alors, ça a été un combat pendant quelques années, et puis après, j'ai lâché le combat. C'est-à-dire que ça ne m'a plus intéressée de me battre pour ça. J'étais plus intéressée par mes choix et mes choix artistiques que réellement le fait de me faire un nom. Voilà. Adolescente, oui, c'était quelque chose qui me pesait, parce que ce n'était pas... C'était pas un de mes choix à moi, c'est-à-dire que j'ai commencé très très jeune dans une maison de disques où le patron de maison de disques aimait étiqueter comme ça les artistes avec juste un prénom. Donc j'en ai fait les frais. Et c'est vrai qu'après c'est difficile d'imposer un nom quand on nous connaît juste avec un prénom, mais comme j'ai commencé moi par le cinéma, mon nom a toujours été avec mon prénom au cinéma, voilà, ou dans la fiction.
Mais... Comment interprétez-vous cette façon dont le public vous a figé dans le passé, comme vous dites? Je parlais d'égoïsme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu cette volonté inconsciente, mais de ne pas vouloir vous laisser grandir? On aimait trop la Elsa telle qu'elle était.
Oui, je pense qu'il y a plein de gens qui aiment. Il y a une nostalgie aussi. Puis on est rattaché à un passé, à une enfance, une adolescence. On a envie de garder ça intact, en fait. Et... comme ces peluches, comme voilà, des choses qui sont doudou, des choses qui tout d'un coup nous rassurent, en fait. Je crois que c'est rassurant. pour beaucoup de gens.
C'est intéressant que vous parliez de nostalgie, parce qu'on a l'impression qu'elle revient encore, cette nostalgie.
Oui, oui, même les années 80 ont fait leur grand retour, il y a déjà un petit moment, et même dans les artistes d'aujourd'hui, il y a une espèce de revival comme ça, des sons 80s, voilà, on prend un petit peu le meilleur de ces années-là et on essaye d'en faire quelque chose de nouveau. Mais
pourquoi d'après vous? Parce que peut-être on a peur du monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors
parce que tout est un éternel recommencement, j'ai l'impression. Qu'on revient à des choses parce qu'on s'épuise aussi. Et que justement, je crois qu'il y a, cette nostalgie ou le fait de se dire qu'on n'a pas vécu une époque et qu'on aurait peut-être aimé vivre dans cette époque, même si on ne se rend pas compte aussi de ce qu'il y avait de négatif. On garde le positif, ou c'est une espèce d'image aussi figée. Où on voit des gens avec des costumes colorés, avec
oui, une espèce de légèreté.
Voilà, de légèreté, et on a l'impression que c'était tellement mieux avant. Et quand on a nous vécu ça, il y avait bien sûr des choses positives, mais il y avait aussi beaucoup de choses négatives. Il y avait l'arrivée du SIDA, il y avait du racisme, il y avait touche pas à mon pote. Il y avait plein de choses aussi qu'on retrouve aujourd'hui. Voilà, je crois qu'il y a une nouvelle génération qui, comme peut-être nous aussi dans les années 60 ou 70, où il y a une espèce de fantasme de
ce passé brillant. Passé. Vous en avez voulu à votre entourage, à vos parents ou même aux médias de vous avoir figé dans cette image ou d'avoir participé à cette mécanique qui vous figeait dans une image ou pas?
Non, j'en ai pas voulu. J'ai vécu, en fait, je pense comme tous les enfants et les adolescents, on a envie à un moment donné de casser l'image qu'on peut avoir et de grandir peut-être. J'ai eu envie de grandir. En tous les cas, qu'on me voit comme moi je me voyais. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait un fossé entre ce que les gens pouvaient voir de moi et ce que moi j'étais, en fait. Et à un moment, ça m'a pesé. Mais j'avais 18 ans, 19 ans, et comme tout adolescent ou adolescente, j'ai fait une espèce de petite crise interne comme ça.
Je parlais des médias parce que vous vous faites relativement rare en interview, et d'ailleurs on vous remercie d'être là parce que il y a une méfiance vis-à-vis des journalistes à cause de cette époque-là, par exemple.
Non, je crois que j'ai toujours été comme ça, même enfant en fait. Je crois que c'est vraiment lié à mon caractère, et je pense que ce métier-là n'a pas arrangé, c'est-à-dire ça m'a pas aidé. À avoir confiance parce qu'on a affaire aussi à des gens qui sont pas spécialement bienveillants tout le temps, parce qu'on apprend à apprendre sur soi, à répondre à des questions auxquelles on n'est pas spécialement préparé, en fait. On nous demande beaucoup, et puis moi j'avais peur, voilà, j'étais un peu terrorisée, un peu lâchée comme ça dans ce...
Vous dites d'ailleurs, j'ai toujours été sur la réserve, une méfiance qui date de l'enfance.
Oui. Mais j'avais 6 ans, j'étais comme ça aussi. J'ai toujours été très, très renfermée, très timide. Je pense qu'il y avait une grande timidité aussi. Et puis qu'à cause de ça, j'ai cette sensibilité, cette timidité, je me suis un peu forgée une carapace et que j'ai gardée au fil des années.
On va reprendre les choses depuis le début. Votre carrière artistique n'est quand même pas un hasard, hein, pas complètement. Vous êtes née dans une famille d'artistes. Votre maman était peintre et sculptrice. Votre père, musicien, compositeur, photographe, qui pendant 10 ans a chanté dans les restaurants et fait la manche. Et il avait un petit peu honte de ça. Alors lui, il essayait de se cacher, il essayait de faire en sorte que vous ne le voyiez pas. Et vous, vous dites au contraire, j'adorais le voir faire ça et j'adorais le voir donner du bonheur aux gens.
Ah ouais, je trouve que c'est une des choses les plus courageuses, en fait. Il a tout fait pour aider sa famille, pour nous donner à manger, parce que mes parents n'avaient pas un rond, en fait, quand ils m'ont eu. C'est jamais le bon moment pour avoir un enfant, mais là, c'était vraiment pas le bon moment. Et c'était courageux. Donc, il s'est dit, à un moment donné, à chercher des pièces dans n'importe quel manteau pour essayer d'acheter du lait à son enfant. Bah, il s'est dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Je sais jouer de la guitare, je sais chanter. Je vais aller faire ce que je sais faire.
Qu'est-ce que ça a fait de vous aujourd'hui? Qu'est-ce que ce bout d'enfance là que vous racontez fait de l'adulte que vous êtes devenu?
Je pense que j'ai une conscience du travail et de la valeur du travail. C'est-à-dire que j'ai toujours eu ce sens-là très aiguisé, en fait, de ce que c'était. En fait, j'ai jamais eu l'impression d'être arrivée à quelque chose ou d'être parvenue. J'ai pas du tout ce truc-là. Je vis et je pense encore comme si on n'avait pas d'argent.
Que ça pourrait s'arrêter
et que
demain.
Ça pourrait s'arrêter demain. Et j'ai pas, voilà, je fais très attention en fait. Je suis dans une dans cette prudence
Et sobriété.
Oui. Mmh. Ouais.
Vous avez 7 ans lorsque Dominique Besnéard, agent de votre tante Marlène Jobert, vous propose lors d'un dîner familial de passer le casting d'un film de Claude Miller, Garde à vue. Mmh. Vous êtes prise à ce casting, vous jouez aux côtés de Romy Schneider, Lino Ventura, Michel Serrault, et là vous crevez l'écran. Sauf que vous l'avez dit, vous êtes une petite fille très timide, introvertie, pas très rassurée. Est-ce que vous diriez que les adultes ont un peu décidé pour vous d'un chemin qui n'était pas forcément le vôtre au départ? Est-ce que vous avez eu le sentiment de subir? Est-ce qu'au fond de vous, vous aviez envie de jouer la comédie, ou est-ce qu'on a décidé pour vous?
Je pense qu'on a décidé pour moi au départ. J'étais trop jeune pour savoir ce que je voulais vraiment. Mm-hmm. En même temps, on m'a pas mis un couteau sous la gorge, donc y a sûrement plein de raisons pour lesquelles j'ai dit oui et j'ai accepté ça. Je pense qu'il y avait mon père a toujours fait ce métier-là, il a toujours eu envie de réussir aussi. Il a fait des disques, mais ça n'a jamais pris comme il aurait souhaité que ça prenne. Et tout d'un coup, je pense que inconsciemment, il y avait une envie de réussir pour faire plaisir à mon papa, pour faire plaisir aux gens qui peut-être voyaient en moi quelque chose, et ne pas, la peur peut-être de décevoir ou ne pas avoir envie de les décevoir. Oui, j'ai dit oui pour sûrement toutes ces raisons-là. Et puis après, j'ai appris mon métier, j'ai appris à aimer ça aussi. Oui. Ça n'a pas été évident tout de suite, parce que justement, j'étais très timide et ça a été une violence au départ. Et puis après, c'est devenu aussi une joie et un bonheur de faire ça, oui.
Et de ce film en particulier, vous en gardez quel souvenir? Parce que vous étiez quand même face à trois monstres du cinéma. Est-ce qu'ils ont été bienveillants? Est-ce que ça a été un environnement bienveillant?
Oui, ouais, très. Ouais. Ouais, ouais. J'ai des images très jolies, en fait, avec les uns et les autres. Romy avait perdu son fils très peu de temps avant, donc c'est vrai qu'il y avait moi, j'avais senti du haut de mes 7 ans un regard et une tristesse et une émotion face à moi. Sûrement que je devais lui rappeler son garçon aussi. Et Serrault était égal à lui-même. C'est drôle, gentil, pince sans rire, vivant, ouais, très vivant. Et Lino, un bon papa, et qui m'a un peu pris sous son aile, et j'étais très protégée et très.
C'est une expérience qui a pu vous aider à sortir de votre timidité?
Non. non, c'est quelque chose qui m'a. Non, ça a été la timidité et l'angoisse. Je l'ai encore aujourd'hui, hein, moins qu'avant, mais j'ai toujours une angoisse en fait, une angoisse de pas réussir, de pas être à la hauteur en fait.
Et à la lueur de celle que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à la petite fille que vous étiez, à cette petite fille qui allait se lancer dans la vie?
C'est difficile de donner des conseils. Elle a fait comme elle a pu, en fait, ouais. Avec ce qu'elle avait et ce qu'elle pouvait faire. Et je trouve qu'elle n'est pas trop mal sortie. Donc, je n'ai pas vraiment de conseils. C'est de se faire confiance, peut-être, un peu plus. En tous les cas, d'avoir, à l'époque, ce qu'il fallait pour, en tous les cas, ne pas être à ce point-là rongée par l'angoisse et par la peur. Mais elle s'en est plutôt bien sortie.
En 1986, vous avez 13 ans, c'est le gros tournant de votre carrière. Vous jouez Héloïse dans La femme de ma vie de Régis Varnier. Vous êtes la fille de Jane Birkin et de Christophe Malavoy. Il y a une chanson qui s'improvise pour une scène. On vous met au piano, on vous fait chanter une quarantaine de secondes. Et là, votre voix séduit toute l'assemblée. Le titre est finalement développé et sort en 45 tours. Et là, c'est le tourbillon. Mmh. T'en vas pas. Est numéro 1 des ventes pendant 8 semaines. Il s'écoule à 1,3 million d'exemplaires. Avec le recul, est-ce que vous avez une interprétation de ce succès phénoménal? Qu'est-ce qui fait que cette chanson a pris auprès du public?
C'est toujours un peu la magie, hein, le succès d'un titre. Je pense qu'il y a eu plein de choses mélangées. Il y avait un titre qui était quand même très efficace.
Musicalement, vous voulez
dire ? Musicalement, une des paroles qui parlait au plus grand nombre, hein, que ce soit aux enfants qui venaient d'avoir des parents qui se séparaient, aux parents qui étaient en train de se séparer, avec un enfant qui leur, justement, leur enfant qui leur parlait. Donc, je me souviens même à l'époque des artistes qui pouvaient parlé à la radio de cette chanson en disant à quel point ça les avait bouleversés parce qu'ils traversaient cette période ou qu'ils avaient traversé cette période. Voilà, et puis une petite fille qui chantait cette chanson, qui était sûrement avec quelque chose qui était, comment dire, une peut-être une timidité et une douceur hein, qui a parlé aussi ou qui a plu au plus grand nombre à ce moment-là.
C'était le thème du film, hein, c'est pour ça qu'il y a ces paroles-là autour du divorce.
Ouais, c'est le thème du film, mais en fait c'est la chanson qui a amené les gens à aller voir le film plus que l'inverse, c'est-à-dire que le film marchait pas très très bien quand il est sorti, et le titre a été tellement phénoménal qu'après les gens ont été curieux d'aller voir le film grâce à la chanson.
Il y a d'autres succès phénoménaux qui suivront, notamment votre duo avec Glenn Medeiros, dont on est encore quelques-uns à connaître les paroles aujourd'hui. Numéro 1 des ventes pendant 6 semaines. Un duo avec Laurent Voulzy, Jamais nous. Un Olympien en 1990, à seulement 17 ans, hein, c'est ça. Le rôle principal dans Le retour de Casanova avec Alain Delon et Fabrice Luchini, pour lequel vous montez les marches à Cannes, et c'est même un peu houleux.
C'est
encore de la scène compliquée que vous vivez
à ce
moment-là.
Ouais,
pas un bon souvenir.
Non,
la foule.
Alain avait voulu partir de l'hôtel pour aller à pied monter les marches, et c'est vrai que ça a été un moment, moi, qui suis agoraphobe totalement. Ça a été un peu le cauchemar, ouais.
Parce que les fans se jetaient sur lui.
Il y avait beaucoup de monde, ouais. Même le service d'ordre n'arrivait pas à contenir les gens. Donc moi, je suis en plus petite, menue. J'avais ma maman qui était derrière, une petite femme aussi. Donc je me retournais sans arrêt pour savoir si elle allait bien. Enfin, c'était, voilà, même Luchini qui était avec nous. Et enfin, voilà, on comprenait pas trop pourquoi, à part
pourquoi,
l'espèce de, pour un accès d'ego, je pense, pour un besoin d'exister sur juste quelques mètres pour rejoindre les marches. Mais c'est vrai que ça a mis beaucoup de gens dans une situation très délicate et qui n'était pas nécessaire.
Vous lui en avez voulu, vous avez pu lui dire?
Ouais, au départ, j'ai trouvé ça un peu con, en fait. Et puis, après, j'ai laissé tomber, mais ouais, je trouvais pas ça très utile.
À 20 ans, vous envoyez tout valser. Vous dites stop. Je n'étais plus à l'aise dans ce que je faisais. J'ai dit merde à tout le monde. Je me suis coupé les cheveux. J'ai appelé mon père avec qui je faisais mes disques. Je lui ai dit j'arrête et puis je suis enceinte. Oui. Quel a été le déclic? Quelle a été la goutte d'eau pour envoyer tout le monde valser?
Je ne sais pas. Je pense que pour beaucoup de gens qui ont commencé peut-être très tôt aussi, mais même pour des gens qui commencent sur le tard et qui font beaucoup, 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 beaucoup et qu'il y a un moment où on n'a même pas le temps de se poser pour réfléchir, en fait, à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on est, à ce qu'on veut vraiment, en fait.
Mais vous vous souvenez pas d'un point de bascule, un truc qui vous fait dire la stop?
Je crois que j'ai sorti un album et j'étais pas totalement en accord avec cet album. Il y avait des chansons. Je pense que c'est peut-être ça qui a fait qu'à un moment j'ai fait en fait j'en ai marre. Voilà, j'ai envie maintenant de me poser, de savoir ce que je veux moi, prendre un peu de recul, peut-être me mettre aussi à créer, ce que je ne faisais pas jusqu'à maintenant. J'étais juste une interprète et j'avais envie aussi d'écrire, j'avais envie de j'écoutais aussi plein de musiques différentes et qui n'étaient pas réellement de la variété française et j'avais envie de m'instruire aussi, de me cultiver, Et puis je crois qu'un besoin ou l'envie de faire un enfant pour être une femme.
Alors c'était. Je trouve intéressant aussi le réflexe de se couper les cheveux, comme pour dire stop à cette féminité, sensualité à laquelle on vous assignait peut-être. Il y a eu quelque chose de cet ordre. J'ai trouvé ça incroyablement intéressant comme geste.
Oui, sûrement. Il y a quelque chose de l'ordre de la psychologie. Puis on m'avait toujours connue avec les cheveux longs, ondulés, avec une espèce de douceur, quelque chose qui était l'enfant un peu bien sous tout rapport et qui me gonflait, en fait. J'en avais marre de ça.
Il fallait que ça passe par un changement physique.
Ouais, je crois que c'était une façon de couper, en fait, de dire je suis autre chose que ça, je peux avoir une autre image et en fait j'en ai marre. Voilà.
Dans Ici tout commence, vous êtes une femme chef de cuisine. C'est intéressant. Vous avez une relation avec un homme plus jeune. C'est vous la femme d'expérience, c'est vous la patronne. Ça ne me semble pas complètement un hasard. Est-ce que vous avez aussi aimé ce rôle? Parce que c'est le rôle d'une femme qui maîtrise les choses, qui ne subit pas les choses.
Oui, moi je pense que oui. Je ne me suis pas posé la question au moment où j'ai accepté de faire la série. On m'en a parlé justement après, mais on a mis en parallèle avec mon père, avec, voilà, qui a travaillé beaucoup avec moi. Donc en plus dans la série, Francis Huster, qui joue mon père et y a un rapport entre les deux, enfin ils sont très liés. Il y a le patriarche avec cette enfant au départ qui a suivi les traces de son papa et qui a travaillé avec lui et qui voilà, c'est une figure un peu comme ça d'autorité et de un père quoi. Et donc il y a sûrement un parallèle inconscient. Quand j'ai accepté de jouer dans cette série, mais sûrement réelle, ouais.
Mais dans lequel vous vous reconnaissez aujourd'hui, finalement. Donc,
oui, et puis je trouve ça très bien, c'est-à-dire que c'est l'image d'une femme que j'aime bien, c'est-à-dire c'est une femme volontaire, une femme exigeante, qui en même temps vit une relation avec un homme qui est plus jeune que lui et l'assume. Donc je trouve que c'est très complet. Ça donne l'image d'une femme d'aujourd'hui.
J'ai un document à vous présenter. Il s'agit d'une archive. C'est une photo que je vais vous laisser découvrir. Je vais la décrire pour les gens qui nous écoutent. C'est une photo de Coluche, entourée de deux femmes déguisées en clowns, des bénévoles. Il pose devant l'entrée de l'un des trois restaurants du cœur de la région parisienne. On est le 21 décembre 1985. Vous faites partie de la troupe des Enfoirés. C'est un engagement qui vous tient à cœur. À l'époque, tout le monde pensait que ça ne durerait pas bien longtemps, cette aventure des Restos du Cœur, ou en tout cas l'espérait finalement. Non seulement ça dure, mais c'est de pire en pire. Quel regard vous portez sur le fait que cette association, qui devait être éphémère, finalement dure dans le temps et est plus nécessaire que jamais?
On est tous un peu tristes de la situation, c'est-à-dire que c'est sûr que ça ne devait pas durer. Aujourd'hui, c'est en plus, on essaye de couper les vivres au Resto du Cœur et je trouve ça absolument terrible. Alors qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans le besoin et même des étudiants aujourd'hui, des gens où on ne pouvait pas soupçonner il y a encore quelques années qui feraient la queue à la soupe populaire. Donc c'est encore plus aujourd'hui, c'est d'actualité et heureusement que Coluche a existé.
Dans une interview assez récente à Libération, vous vous êtes dite profondément de gauche. Ça veut dire quoi?
En fait, je ne sais pas vraiment. Aujourd'hui, c'est très compliqué de dire qu'on est quelqu'un de gauche parce qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Je suis profondément dans une envie de justice sociale. Et encore aujourd'hui, c'est plutôt à gauche que ça se passe. Donc,
Pourquoi vous avez l'impression que c'est plus difficile de définir la gauche aujourd'hui?
Parce qu'il y a moins de représentants de gauche, il y a moins de... et que ça part un peu dans tous les sens. Donc c'est difficile de se raccrocher à quelqu'un en particulier. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas une coalition de la gauche. Moi, je le regrette profondément.
Ouais, la gauche a raté son rendez-vous avec ses électeurs, vous pensez?
Je trouve que c'est dommage, oui. En tous les cas, moi, en ce qui me concerne, j'irai toujours dans le sens de cette justice sociale-là et d'une aide pour les plus démunis, une aide... Voilà, qu'il y a une vraie justice.
J'ai des photos maintenant pour vous. C'est un autre rituel dans cette émission. Je vais vous présenter cette première photo. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je ne la connaissais pas. C'est en préparant cette émission que j'ai appris à la connaître. Il s'agit de Tylan Biggs, qui est une influenceuse mode américaine. Elle a 10 ans. 1,5 million d'abonnés sur ses réseaux sociaux, habillée des pieds à la tête par les grandes marques, soutenue par ses parents. Aujourd'hui, les enfants stars, les ados stars, et c'est pour ça que je vous présente ces photos, émergent sur TikTok. C'est plus du tout la façon dont vous l'avez vécu. Ça émerge sur les réseaux sociaux. Quel regard vous portez là-dessus? Ça vous effraie, vous qui avez connu cette médiatisation si jeune? Là, c'est volontaire, c'est d'eux-mêmes, c'est sur leurs réseaux.
Oui, il y a des choses. Enfin, c'est un peu effrayant pour certains profils. Ça, je veux pas non plus être une vieille icône réac, et ça, je veux vraiment pas l'être. Ouais. Et le côté c'était mieux avant et tout ça, j'ai pas du tout envie d'être ce genre de personne en fait. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt pour certains, a amené quelque chose pour d'autres personnes, et peut-être qu'on n'a pas le recul et qu'on n'a pas la compréhension encore, parce que moi, à mon époque, il y avait aussi des gens qui pouvaient être choqués par des enfants ou des jeunes qui pouvaient chanter ou jouer la comédie, et finalement, c'est un peu plus rentré dans les mœurs après. Le rock'n'roll a été, au moment où il est sorti, aussi quelque chose de terrible pour les gens. Donc j'en sais rien. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de flou par rapport à ça. Moi, je suis choquée par certains profils, par un vide. En fait, ce qui me gêne, c'est le vide. Voilà, c'est qu'il n'y ait pas de création ou qu'il n'y ait pas quelque chose d'apporté artistiquement
ou sur le fond
quand c'est que de la surface ou quand il y a rien, quand on gratte derrière, ça me gêne un peu plus.
Petit conseil à lui donner quand même à cette gamine ou pas pour son avenir?
C'est surtout aux parents qu'il faudrait donner des conseils, parce que cette pauvre enfant, elle a 10 ans, et malheureusement c'est pas elle qui décide totalement, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de faire ça, donc c'est plutôt les parents qui seraient condamnables si cette personne-là à un moment donné ne va pas bien.
Une deuxième photo, il s'agit d'Emmanuel Béard, qui a révélé dans un documentaire avoir été victime d'inceste pendant son adolescence. Elle s'est tue jusqu'ici publiquement sur ce sujet. Elle a décidé finalement d'en parler. Dans Parole contre parole, vous jouiez une victime de viol qui avait décidé de se taire. C'est un sujet qui vous touche, ce silence des victimes. C'est quelque chose qui vous heurte?
Oui, ça me heurte comme le fait de plus être entendue ou écoutée à partir d'un certain moment. Je trouve ça extrêmement choquant, en fait. Les victimes devraient avoir la possibilité de s'exprimer et de parler de ce qu'elles ont vécu à n'importe quel moment de leur vie, et qu'il n'y ait pas de prescription. Je trouve que la prescription pour ça est absolument épouvantable. Et ces femmes-là, justement, c'est très courageux de leur part de prendre la parole, et on se rend compte à quel point il peut y avoir de nombreuses années avant de pouvoir parler en fait de ce qu'on a subi. Moi, quand j'ai préparé le film Parole contre parole, j'ai rencontré des femmes et j'ai entendu des femmes qui étaient dans cette situation-là, et c'est une douleur épouvantable
qui les poursuit
toute leur vie, et qui poursuit plus les victimes que les agresseurs. Donc je trouve ça terrible de pas avoir cette écoute. Ouais.
Une dernière photo plus légère qui peut-être va vous faire sourire. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître.
Ouais.
Alors, on a découvert cette photo. Alors, il s'agit de Glenn Medeiros.
Je l'avais découverte aussi sur les réseaux, justement.
Ouais. Voilà, votre complice, votre binôme des années 80. Il est devenu professeur puis proviseur d'un établissement scolaire à Hawaï. Vous le saviez ou pas?
Oui, je l'ai su. Ouais. Et je trouve qu'il a très, très bien réussi. En plus, il a fait une reconversion absolument magnifique. Et je crois qu'il continue de chanter de temps en temps aussi. Mais
vous échangez un peu avec lui?
Non, j'ai pas échangé avec lui depuis qu'on est adolescent. Non.
C'est vrai? Aucun contact avec Glenn Medeiros? Alors que vous êtes un duo mythe dans la tête des ados. Des ados que nous étions.
Non, j'ai pas communiqué avec lui, mais en tous les cas, j'ai vu qu'il avait fait une belle carrière.
Elle est sympa, cette photo. On avait envie de vous la montrer. Ouais. Ça nous a fait plaisir. J'ai une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes, Elsa Lunghini. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle particulièrement ou qui vous caractérise, vous?
Oh, qui me caractérise, je ne sais pas, mais la justice, je pense. Enfin, par rapport à tout ce dont on a parlé depuis le début de l'émission, en fait, je suis très attachée à une justice, à une considération, en tous les cas, et que ce ne soit pas une justice à deux vitesses, et que ce ne soit pas toujours dans le même sens, que la justice se fait, ou en tous les cas, qu'on puisse donner la parole et que ce soit entendu, reconnu et juste.
On s'arrêtera sur ce mot. Merci infiniment d'avoir été notre invité.
Merci à vous
qui vous faites si rare en interview. On a été ravis de vous recevoir.
Moi aussi.
Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis, comme chaque semaine. À très vite sur Public Sénat, émission à retrouver en podcast, bien sûr. À très bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.